Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs. Aujourd'hui, dans sa version grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique avec Frédéric Maury de Jeune Afrique. Bonjour Frédéric.
Bonjour Jean-Pierre.
Ravi de vous retrouver. Nous recevons Nadir Roussal. Bonjour Nadir Roussal.
Bonjour.
Nadir Roussal, vous êtes sénégalais, agriculteur et vous êtes syndicaliste. Vous dirigez la Fédération des ONG du Sénégal, Action Paysanne. Vous présidez le cadre national de concertation et de coopération des ruraux du Sénégal, première plateforme autonome paysanne au Sénégal, et vous êtes en plus secrétaire général du réseau des organisations paysannes et producteurs d'Afrique de l'Ouest, le ROPA. Qu'est-ce qui vous a attiré vers l'engagement syndicaliste agricole ?
Bonjour, merci de m'avoir invité, je commencerai par ça. Et la première chose, elle est tout à fait naturelle, on m'a transmis dans une famille paysanne, j'ai grandi dans une famille exploitation familiale qui m'a permis effectivement d'avoir cet engagement par rapport à mon métier, au métier que m'a transmis mon père.
Quel métier vous a transmis votre père exactement ?
Bon, mon père m'a transmis ce métier d'agriculture, de gérer ses activités avec cette dignité agro-sylvopastorale et éthique dans mon propre village. Et il m'a éduqué dans ce sens, en me forgeant sur une culture qui m'a permis effectivement de reconnaître très rapidement la dignité de mon métier.
C'est quoi la dignité de votre métier ?
De vivre de ça sur, en premier lieu, ça c'est un premier élément. Deuxièmement, d'avoir cette culture de partage de ce qu'on gagne et d'accepter que tous comptent dans le monde et que chacun a sa place. Il s'agit bien de la jouer seulement, mais chacun a sa place.
Mais vous cultivez quoi ?
Moi, je suis particulièrement maintenant... Bon, à mon enfance, j'étais dans le système de décrue qui permettait d'avoir des cultures qu'on appelait, entre guillemets, traditionnelles, où je faisais le sorgho avec mon père. C'est là où j'ai appris à cultiver. Mais actuellement, avec la grande sécheresse depuis les années 74, je suis quand même issu du nord du Sénégal, de la vallée des fleuves. Je suis un riziculteur et je fais de l'élevage en plus.
Donc, du riz et de l'élevage ?
Ouais. Donc, je suis un agro-pasteur.
Vous êtes un agro-pasteur. Ouais. Mais qu'est-ce qui vous a attiré vers le syndicalisme ? Parce que ça doit vous prendre beaucoup de temps.
Bon, avant d'être syndicaliste, ce qui m'a attiré en premier lieu, c'est l'organisation de mon propre village. Je suis un des jeunes qui, dans mon village qui se sont organisés pour aider à améliorer les conditions de vie de mon village. Et cette aspiration d'arriver à un bon village qui est organisé, qui sur le plan social aurait les infrastructures qu'il faut, qui sur le plan culturel avec une solidité et sur le plan économique une assise importante, nous a amené à avoir une curiosité à un moment donné de dépasser cette phase de village, de croire que dans la zone il y a des problèmes communs qu'il faut régler. C'est au fil du temps, tout se construit. Mais tout a démarré dans mon propre village dans les années 74-75.
Alors nous allons parler de ça au cours de cette émission avec Frédéric Maury de Jeune Afrique. Nous allons vous interroger sur les grandes questions qui secouent l'agriculture africaine, sur le rôle que les paysans africains jouent dans l'économie de la région, sur la concurrence internationale à laquelle ils font face, et nous allons aussi vous interroger sur la manière dont vous faites face aux mutations climatiques actuelles. Première question de Frédéric Maury pour Jeune Afrique.
Alors, Monsieur Sall, vous étiez cette semaine à Paris pour le Salon de l'agriculture. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici, à ce grand salon ?
Je suis arrivé sur l'invitation du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement Rural du Sénégal. On est venu pour trois grandes choses. La première chose, le premier aspect de venir au Salon de l'agriculture, c'est l'aspect de curiosité, de venir voir qu'est-ce qui se construit au niveau, parce que le salon de l'agriculture quand même parisien est un salon mondial, voir qu'est-ce qui se passe dans ce monde. Ça, c'est la première question que nous essayons. Mais la deuxième qui est le plus important pour nous, c'est de venir montrer qu'est-ce que nous sommes et qu'est-ce que nous sommes en train de faire sur la base de ça, sur quoi agir ensemble au niveau mondial. Mais créer les conditions, effectivement, pour qu'on arrive à des filières très fortes qui nous permettent, effectivement, d'exporter à un moment donné une forme de notre production. Ça, c'est le deuxième palier. Le troisième palier, naturellement, c'est les moments des moments pareils, c'est des moments importants de revisiter le partenariat entre les organisations paysannes que nous sommes et les autres partenaires, qu'elles soient financiers, techniques ou autres, de la coopération d'une manière générale, qu'elles soient françaises ou ailleurs. Et tout ça m'a été facilité quand même, j'en profite pour le remercier, par le ministère de l'Agriculture qui m'a invité en tant que président de la cadre nationale de coopération et de coopération des ruraux du Sénégal, le CNCR.
Alors, le stand sénégalais au Salon de l'Agriculture, il est important cette année. Ibrahima Mendy en est le commissaire. Il est aussi et surtout le directeur de l'analyse, de la prévision et des statistiques au ministère de l'Agriculture du Sénégal dont vous venez de parler, Nadir Roussal. Et il explique à Stanislas Daïchimier, journaliste au service économique de RFI, quelle est la principale particularité cette année du stand sénégalais au Salon international de l'agriculture de Paris, Ibrahima Mendy.
Ici, il y a beaucoup plus de dames qui exposent que d'hommes. Parce qu'au Sénégal et en Afrique aujourd'hui, le secteur de la transformation des produits agricoles, c'est les femmes qui sont là, qui occupent ce terrain. Donc c'était important de venir avec elles pour leur permettre à la fin du salon qu'ils puissent peut-être avoir des partenariats dans des succursales, peut-être français, qui leur permettront après de pouvoir pénétrer le marché agricole au niveau de la France, mais aussi dans le monde entier.
Parler de la transformation, pour l'instant, c'est une transformation artisanale de la part de toutes ces dames qui exposent.
Oui, c'est encore artisanal, mais si je fais la comparaison par rapport aux années passées, on constate qu'il y a beaucoup d'avancées. C'est la raison pour laquelle c'est important qu'elles viennent pour montrer ces innovations. C'est possible qu'il y ait des industriels qui voient la possibilité, cette niche importante qui est là, qui est en Afrique, de pouvoir peut-être les accompagner pour agrandir leur business. Le développement de l'agriculture en Afrique ne doit pas s'arrêter seulement à la production. Il faut qu'il y ait des gens qui sont sur ces maillons de la chaîne pour pouvoir vraiment développer l'agriculture dans l'autre élément important, c'est le secteur de la transformation parce qu'on est carrément dans l'aspect commercialisation.
C'était donc Ibrahima Mendy, le commissaire du stand sénégalais au Salon de l'agriculture. Nadir Roussal, est-ce que les femmes sont reconnues à leur juste place dans le monde agricole sénégalais et ouest-africain en général ?
Oui, je dirais oui, absolument. Ils sont reconnus par le biais de leur métier, par ce qu'ils viennent d'expliquer. Il y a un consensus quand même qui s'est dégagé en Afrique pendant ces 10 ans, 15 ans sur le consensus agroalimentaire, c'est-à-dire sur la question de la transformation. Ce qui est derrière la question de la transformation, c'est de dire comment récupérer le maximum de la valeur ajoutée de sa production.
La valeur ajoutée.
De sa propre production. Mmh. On va de la production primaire à une transformation. Il y a toute une ingénierie, effectivement, qui a été développée en Afrique, et plus particulièrement par ce segment des femmes qui, aujourd'hui, démontrent, moi, je dirais, une transformation pas traditionnelle, entre guillemets, comme on pense le dire, je ne sais pas qu'est-ce qu'on met dans le traditionnel, mais une transformation qui se donne. Maintenant, dans cette transformation, il y a des niches qu'il faut trouver. Je vous donnerai l'exemple du Bissau. Le Bissau, c'est quoi le nom français?
La fleur d'hibiscus.
Voilà. Il a fait sa propre promotion dans toutes les localités, dans toutes les régions du monde où tu vas, dans un restaurant, tu trouveras le Bissau. Si on reste à dire toujours que la transformation de ce Bissau est traditionnelle, je ne sais pas qu'est-ce qu'on appelle comme traditionnel. C'est ça que je dis. Sur ce Nice, effectivement, je crois que c'est que celles qui sont là au Salon de l'agriculture, elles sont venues montrer effectivement combien, sur quoi on pourrait agir sur un consensus au niveau mondial pour aider, mais récupérer le marché international. C'est ça l'esprit quand on est au Salon de l'agriculture.
Qu'est-ce que vous voulez dire par récupérer, c'est-à-dire ?
Non, c'est-à-dire récupérer, c'est de créer des conditions pour qu'on ait des produits compétitifs qui peuvent effectivement agir au niveau mondial. Un, que sur le plan effectivement de la présentation, de la qualité du produit, mais de sa compétitivité sur le plan prix, que ce soit un prix qui effectivement rentre dans le marché international et qu'il soit intégré.
Et les femmes ont un rôle plus important que les hommes sur le segment de la transformation ?
Bon, je crois qu'il faut reconnaître quand même qu'elles ont un rôle important, primordial. Parce que pour simple raison, elles se sont engagées très rapidement. Deuxièmement, elles ont accepté de créer ce que je peux appeler une ingénierie de la transformation. Aller coup par coup, jusqu'à que ce soit une chaîne.
Mais c'est quand même très artisanal.
Oui, artisanal, oui. Bon, ça dépend de ce qu'on est. Par exemple, si on est quand même sur les jus de fruits, on commence quand même à avoir des unités qui peuvent effectivement faire une production en fonction de la demande, je dirais.
Bon, c'est des petites unités de transformation, c'est ça ?
Il y en a des unités, il y a des petits, il y a des moyens. Dans un proche avenir, on arriverait à des grandes qui. Mais la question qu'on doit se poser, est-ce qu'il faut arriver à ces grandes d'ailleurs ? Quel est le plus important ? Le plus important, c'est que ces femmes, elles essayent d'aider aux exploitations familiales que nous sommes à avoir la valeur ajoutée de notre propre production. Ces petites unités sont installées dans des communes, dans des villages, dans des choses qui permettent effectivement de faire agir la zone, mais qui permet en même temps de développer l'économie.
Par exemple, autour de vous, dans le village dont vous êtes originaire, dans la région de Thiès.
Oui, dans la région de Saint-Louis, moi je suis originaire de la région de Saint-Louis, mais dans, autour de moi, il y a toute une forme de transformation, que ce soit sur le lait, en petite laiterie, que ce soit en termes de jus, de fruits, et qui nous permet effectivement non seulement d'arriver à capter cette valeur ajoutée que j'ai dit de cette production, mais en même temps de pouvoir se nourrir de ce qui... C'est ça qu'on a appelé petite unité, qui sont très spécifiques, mais qui s'adaptent aujourd'hui à l'évolution de l'exploitation familiale que je suis.
Le Sénégal, c'est un grand pays consommateur de riz. Depuis la crise alimentaire de 2008, l'État sénégalais a entrepris de développer la riziculture nationale pour diminuer les importations, pour que les consommateurs sénégalais aient plus de riz sénégalais à leur disposition. Est-ce que ça marche ou est-ce qu'on en est aujourd'hui?
Bon, on est quand même, il y a trois éléments qu'il faut réfléchir. La première chose, c'est que l'État sénégalais s'est donné une ambition d'arriver à une autosuffisance de riz en fin 2017. Ça, c'est la première ambition. Elle a construit une stratégie et elle a mis des moyens.
Et on va y arriver, vous pensez?
Je suis un peu sceptique. Mais la bonne question que je suis en train de me poser, c'est de dire, ce qui est le plus déterminant pour cet État, c'est qu'ils ont affiché une ambition, ils ont mis les moyens, qu'on peut s'asseoir à un moment donné autour de l'année pour voir, se poser les bonnes questions, qui a agi et sur quoi. Et sur quoi on devrait améliorer si on n'y arrive pas. C'est ça qui me semble le plus
important. Vous dites que vous êtes sceptique. Pourquoi est-ce que vous êtes sceptique?
Bon, je ne sais pas. C'est-à-dire, je crois qu'effectivement, en partant des chiffres officiels que j'ai commencé à voir, effectivement, qui vont sortir, il y a quand même deux campagnes qui restent à combler. On verra ce qu'elles vont donner. C'est ça. Je ne peux pas être affirmatif qu'on va y arriver ou non. Mais le plus déterminant pour moi, c'est que ce que j'ai posé comme question, c'est de dire, écoutez, si on y arrive, c'est ce qu'on cherchait, parce que moi, je suis un agriculteur. Si on n'arrive pas, quelle va être effectivement une forme de participation ensemble des acteurs pour qu'ils agissent ensemble, qu'ils se posent des bonnes questions pour améliorer, pour y arriver.
Est-ce qu'il y a eu une augmentation quand même assez nette de la production de riz?
Non, il faut reconnaître quand même qu'il y a eu des avancées significatives, que ce soit sur le plan rendement, sur le matériel agricole, sur les aménagements, il y en a eu.
Et qu'est-ce qui reste à faire justement, vous disiez? C'est-à-dire quelles sont les étapes d'après?
C'est difficile à se prononcer sur ça, mais moi je crois, si je prends mon cas, dans mon département, là où je vis, il y a plus peut-être à augmenter les aménagements hydro-agricoles.
C'est-à-dire l'irrigation.
À faire des aménagements plus.
C'est-à-dire que l'accès à l'irrigation n'est pas encore assez important pour les
producteurs. Elle est importante, mais elle est à augmenter pour arriver à cette ambition.
D'autosuffisance. Est-ce qu'il y a des pays d'Afrique de l'Ouest qui ont réussi à atteindre une forme d'autosuffisance?
Je connais qu'il y a eu des pays qui se sont fixés les mêmes objectifs que le Sénégal, au Nigeria, en Côte d'Ivoire, je crois, au Ghana, mais je n'ai pas en même temps les chiffres.
Le Mali? Le Mali, un grand pays producteur.
Oui, tous. Mais j'ai pas, là où je suis, je n'ai pas une bonne information pour pouvoir dire qu'ils sont arrivés.
Est-ce que ce riz, il est compétitif par rapport au riz importé? Puis c'est souvent aussi un des problèmes.
Il y avait cette difficulté à un moment donné, mais si je prends le cas du Sénégal, particulièrement aujourd'hui, non seulement il est compétitif, mais le consommateur sénégalais l'a accepté et l'a aimé.
Voilà. Donc il s'est fait au riz sénégalais?
Il se fait au riz sénégalais.
Et les circuits de commercialisation qui souvent posent problème répondent à la demande?
Non, répondent maintenant à la demande du consommateur sénégalais. Les Sénégalais, par nature, aiment le riz avec des brisures. Nous avons toutes les variétés aujourd'hui. En termes de... Les exploitations familiales ont mis quand même sur ce marché toutes les variétés et toutes les quantités et qualités de riz aujourd'hui. On peut, en même temps, le segment de la transformation, que ce soit le riz entier, qu'il soit brisé, qu'il soit demi-brisé, qu'il soit parfumé, qu'il ne soit pas parfumé, tout ça, effectivement, aujourd'hui, ça veut dire qu'effectivement, qu'on est arrivé quand même à des itinéraires qui ont permis très rapidement, que ce soit la recherche, que ce soit les producteurs, que ce soit les transformateurs, à agir ensemble pour respecter le goût du consommateur sénégalais.
Est-ce que vous avez l'impression, depuis peut-être une quinzaine d'années, par exemple, sous les différentes présidences, que ce soit Ouad ou que ce soit celle de Macky Sall, qu'il y a eu une volonté des présidents de protéger la production locale, de la protéger des importations, de protéger aussi les industries de transformation?
Mais on ne peut pas être un président de la République sans avoir cette volonté. Maintenant, qu'est-ce que le nouveau international te permet? C'est ça la vraie...
Qu'est-ce que le quoi?
Le niveau international
te permet... Le droit international?
Le niveau international.
Le niveau international. Au même moment où nous avons cette équipe, il y a eu quand même des accords de partenariat économique qui sont en... négociation avec l'Union européenne où on est en train de pousser nos États à les signer et c'est une forme d'ouverture à 100%. Mais je peux donner des exemples quand même.
Vous voulez dire qu'il y a une volonté, qui est affichée, mais que dans la réalité, il y a un certain nombre de...
La volonté, elle existe partout. Elle peut exister. Elle a existé par tous les présidents que j'ai connus. Ils ont toujours voulu, effectivement, qu'il y ait de bonnes productions dans notre pays et qu'il y ait une forte commercialisation. Mais c'est ça qu'on prise en charge.
Et comment vous expliquez dans ce cas-là la déliquescence de l'industrie de la tomate, par exemple, de la transformation de la tomate, qui est-ce qu'il y a eu beaucoup de difficultés, ou la pêche, par exemple, qui a complètement sombré. Toutes les industries, il y a beaucoup d'industries de transformation Sénégal depuis 10 ans...
Il y a ce que j'appelle volonté et réalité. Si on est sur la tomate, on était arrivé dans une politique où on pouvait arriver à l'autosuffisance. On est arrivé, c'était une des filières qui a été la plus organisée au Sénégal, où on est arrivé à une interprofession, l'ensemble des acteurs agissaient ensemble. Bon, voilà, à un moment donné, effectivement, il y a eu, moi je crois, que des difficultés qui se sont posées sur les frontières, qui ont amené effectivement à un moment donné qu'on n'a pas pu respecter. Ça, c'est déjà la pêche, la question fondamentale qui est posée, effectivement, c'est entre cette pêche artisanale que les gens agissent et ce qui était... la pêche entre guillemets industrielle. Voilà, à peu près, c'est des questions, quoi.
Frédéric Maury, une question sur la filière arachide au Sénégal.
Alors, la filière arachide au Sénégal, c'est une filière qui est stratégique pour les différents gouvernements, mais c'est aussi une filière qui emploie une très grosse partie des paysans sénégalais.
Oui, mais...
On a l'impression que c'est une filière qui depuis un certain nombre d'années ne va pas très bien, qui s'est un peu désorganisée, la transformation fonctionne pas très bien. Quel constat vous faites sur cette filière?
Bon, la première chose, c'est que je vous confirme effectivement la filière la plus stratégique au Sénégal, c'est la filière arachidière. Voilà une filière, s'il y a une bonne pluviométrie et il y a une bonne production, que tout Sénégal le sent. C'est elle qui fait agir l'ensemble des autres filières. C'est le moteur de croissance et de développement de ce pays. Ça, c'est un premier élément qu'il faut reconnaître. Parce que c'est lié effectivement à la nature. Parce que c'est quoi l'arachide? L'arachide, c'est quelque chose qu'on utilise sur le tout. On a la fane d'arachide, on a les coques d'arachide, on a l'huile d'arachide. Tout est utilisé. C'est ça, la première source. Le paysan sénégalais prend les trois quarts de sa production qu'elle utilise en termes d'autoconsommation et d'utilisation pour son élevage avant d'agir sur la commercialisation. C'est ça la stratégie quand on parle de la filière. Ça voudrait dire quoi? Et dans tous les pays du monde, il y a des filières stratégiques. Ça veut dire que c'est une filière à protéger. Ça veut dire que c'est une filière à préserver. Ça veut dire que c'est une filière à développer. Et sur ça, nous agissons. Maintenant, il faut reconnaître que dans ça, il y a eu des évolutions et il y a eu des difficultés qui se sont posées. Avec le gouvernement socialiste, à la fin du gouvernement socialiste, effectivement, on est arrivé à une crise de la filière arachidière.
Ce que vous appelez le gouvernement socialiste, c'est Ouad?
Le gouvernement socialiste, c'était le gouvernement d'Abdou Diouf.
C'est
le gouvernement de Bella. Il y a entre les deux, je veux dire qu'il y a eu une crise qui s'est passée sur la filière arachidière. Nous avions un système qui était organisé autour de la production de semences, des industries, effectivement, qui captaient la production à la fin. Tout est organisé. Il y a une désorganisation qu'il faut dire et très rapidement. Et en ce temps, on a lancé la privatisation. On a lancé la privatisation de la SOCAL, de Sonacos. Les organisations paysannes que nous sommes, ce qu'on avait dit, un, il faut comprendre que c'est la filière la plus stratégique. Deux, ayant une privatisation qui prend en compte cette stratégie, quand on dit que c'est une filière stratégique, il faut en prendre en compte. Troisièmement, nous avons demandé à participer même à ce processus, non seulement de privatisation, mais à participer même à cette société. Bon, on n'a pas gagné. Quelles sont les... Pour différentes raisons, je ne sais pas ici que je vais revenir sur cette question, ce n'est pas le plus déterminant. Mais le plus déterminant, que depuis ces années, effectivement, nous avons vécu des choses à recorriger. Le premier segment qui m'a intéressé dans ça, c'est le segment des semences. Nous, organisations paysannes, on s'est dit, écoutez, pour continuer à avoir cette stratégie de cette filière, continuer à préserver cette filière, il faut pouvoir se maîtriser et maîtriser les semences. Et sur ça, nous avons eu à travailler fondamentalement. Nous participons, comme tous les autres, sur la reconstitution de ce qu'on appelle au Sénégal du capital semencier. Ça, c'est un premier élément. Mais on est allé plus loin. Le plus loin, c'est de dire, écoutez, partons de nos productions, créant une forme de contractualisation entre nous et les industriels. Nous travaillons sur cette tentative. Mais sur ce plan, effectivement, en fonction des exigences de reformer nos institutions en créant des nouvelles coopératives qui s'adaptent effectivement à cette exigence. Donc, on est dans ce chemin.
Une dernière question et une réponse très, très rapide.
Courte, oui.
Est-ce qu'à votre avis, puisque la Sonacos a à nouveau, est revenue dans le giron de l'État, est-ce qu'il faut à nouveau la privatiser?
Je dirais, si on devrait la privatiser, il faut éviter ce qui a été fait avant.
C'est-à-dire la privatiser mieux?
La privatiser mieux, en tenant compte de l'avis de l'ensemble des acteurs.
Dans les organisations paysannes.
Dans les organisations paysannes.
Nadir Roussal est le grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique dans Éco d'ici, Éco d'ailleurs. Nous reprenons le cours de cette conversation dans 3 minutes après un flash d'actualité. À tout de suite.
Éco d'ici, Éco d'ailleurs sur RFI. Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bienvenue dans cette deuxième partie d'Écho d'ici, écho d'ailleurs. Aujourd'hui, dans son format grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique, avec Frédéric Maury de Jeune Afrique, nous recevons Nadir Roussal, le secrétaire général du ROPA, le réseau des organisations paysannes et de producteurs d'Afrique de l'Ouest. Au cours de la première partie de cette émission, Nadir Roussal, nous avons beaucoup parlé de votre pays, le Sénégal, des efforts qui sont faits pour atteindre l'autosuffisance rizicole, ne plus avoir à importer de riz pour nourrir la population. Nous avons également parlé de la place des femmes dans l'agriculture sénégalaise, dans la transformation, et puis de la Sonacos, la très importante filière arachidière sénégalaise. L'agriculture, c'est la principale activité de beaucoup d'Africaines et d'Africains. C'est le cas chez vous au Sénégal, donc, mais c'est aussi le cas au Mali. Écoutez cette interview qu'a faite Stanislas Daichimier au Salon de l'agriculture il y a quelques jours. Il y a rencontré Siriman Sako, conseiller à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali, qui revient sur l'importance de l'agriculture dans l'économie malienne.
L'agriculture au Mali, c'est 80% des emplois, formels et informels. L'agriculture au Mali, c'est 30% du produit intérieur brut. L'agriculture au Mali, c'est 30% des recettes d'exportation. Et le premier secteur d'exportation du Mali, c'est l'agriculture, c'est le coton. Pendant 50 ans, les 3 produits d'exportation du Mali, c'était l'agriculture, l'élevage et de la pêche. C'est seulement en 2002 que l'or est venu à la deuxième position. Donc quand on est 80% des actifs, 30% du PIB, 30% des recettes d'exportation, 23% de la balance commerciale, ce n'est que l'agriculture. C'est pour ça que les autres autorités ont décidé de mettre 15% du budget dans l'agriculture. Parce que cette agriculture est confrontée à des difficultés liées au changement climatique, à des difficultés liées au sous-équipement, à des difficultés liées à la qualité des semences. Donc il y a tellement de difficultés dont il va falloir essayer de jouer sur ces facteurs déterminants pour permettre à l'agriculture d'atteindre toute sa productivité pour nous permettre vraiment de se nourrir. Aujourd'hui, on a 8 900 000 tonnes de céréales confondues et nos besoins, c'est 4 500 000 tonnes. Il y a un excédent de 4 500 000, mais c'est un excédent virtuel. Il faut travailler sur la distribution, sur la stabilisation, sur l'accès pour qu'on puisse assurer cette sécurité alimentaire.
C'était Siriman Sako des chambres d'agriculture du Mali au micro de Stanislas Daichimier. Question de Frédéric Maury de Jeune Afrique.
Alors ce sujet de la productivité, c'est un sujet central. On dit souvent que les paysans d'Afrique de l'Ouest ont une productivité qui est assez basse. Est-ce qu'il faut aller finalement vers des plus grandes exploitations, vers une forme plus moderne d'agro-industrie pour arriver enfin à augmenter cette productivité?
Bon, quand on pose la question de la productivité, ma première réaction, j'ai de dire, c'est quelle productivité qu'on parle. Si on parle de productivité globale de l'exploitation familiale globalement, elle est à améliorer. Je suis absolument naturellement d'accord avec vous qu'elle est à améliorer. Elle est à améliorer, mais moi, je crois que l'option n'est pas de dire, effectivement, il faut rentrer dans un système de productivisme qui amènerait effectivement à déplacer ces exploitations familiales de leurs ressources de base et à faire agir d'autres. Ça, si on pense à ça, on ne pense
pas. D'autres qui seraient plus grands et qui auraient plus d'économies d'échelle.
Oui, d'autres qui pensent être plus grands et qui
mieux
viendraient
équipés, etc.
Plus équipés et autre chose. Moi, je crois que
pensez qu'il ne faut pas faire ça?
Mais parce que pour moi, les exploitations familiales africaines ont démontré qu'elles peuvent arriver à 3 segments. Elles peuvent créer, si on crée bien les conditions de bonnes politiques qui s'adaptent à ce qu'elles font, elles vont nourrir le peuple africain, elles vont créer des richesses, elles créer de l'emploi. Elles préserveront les ressources de base.
Vous pensez qu'il faut maintenir tout cet emploi dans l'agriculture africaine?
Non, certainement pas. Il faut qu'on ose poser le débat en même temps sur cette question. C'est ça la deuxième facette. Que tout le monde ne peut pas être agriculteur. Il y aura naturellement. Et sur ça, les organisations paysannes que nous sommes, nous travaillons sur cette question fondamentalement. Au Sénégal, nous avons commencé à dialoguer entre nous pour ne pas être surpris par cette question douloureuse. Qui sortirait de l'agriculture et comment? Comment il devrait sortir? C'est ça le processus. C'est ça qui a donné, dans cette grande richesse et l'adaptation de l'exploitation, a permis d'initier des activités que nous appelons non agricoles qui permettent d'agir ensemble sans être agriculteur, mais d'arriver à créer des richesses autour de la localité.
Par exemple?
Mais tout ce qui est, par exemple, le tissage, le tannage. Il y a autant de choses que je peux vous citer.
Des activités artisanales, en fait, mais non agricoles.
La menuiserie métallique.
La menuiserie métallique.
Oui, mais je donnerai les couturiers. Il y a autant de choses qu'on peut réfléchir où l'exploitation familiale a besoin, qui n'est pas une activité agricole, mais qui permettent effectivement d'agir. Donc, moi, je suis d'accord, effectivement, naturellement, tout le monde ne restera pas agriculteur, ça c'est sûr.
Quelle est la clé de cette transformation, de ce passage, en fait? Ça dépend de quoi? De volonté politique? Ça dépend des bailleurs de fonds, de financement
non,
qui sont donnés?
Ça dépendra de ce que j'appelle agir ensemble, qu'on soit bailleur, qu'on soit de l'État, qu'on soit acteur principal, tout le monde a une condition et un rôle à y jouer. Tu as une partition. Match de football, chacun, il doit y apporter.
Ce que vous proposez, c'est créer des emplois ruraux,
oui,
mais non agricoles. C'est-à-dire que les gens qui sortiraient de la ferme,
ouais,
ils n'iraient pas à la ville.
Ils peuvent aller à la ville, les deux. Mais moi, je suis plus tenté que de dire, écoutez, qu'en milieu rural, il y a autant d'activités qui ne sont pas seulement les activités agricoles en milieu rural.
Et qui n'ont pas été vraiment développées jusqu'à
présent. Et qu'il faut savoir développer. Les exploitations familiales que nous sommes ont commencé à les développer.
Depuis 15 ans, même si la situation économique est un peu moins reluisante aujourd'hui, depuis 15 ans, l'Afrique a connu un véritable boom économique, avec une croissance qui était quand même très forte jusqu'à il y a peu de temps. Est-ce que le monde paysan a bénéficié de cette croissance ou est-ce que, selon vous, il est resté un peu à la marge?
Bon, il ne peut pas rester à la marge. Maintenant, si le monde paysan a se créé, à s'organiser, c'est pour effectivement gagner le plus dans cette marge. C'est sur ça le combat.
Mais comment est-ce que vous combattez pour mieux gagner sa vie? Ça veut dire avoir des prix plus élevés.
C'est un des clés. Pouvoir produire, bien produire en premier lieu, mieux produire et mieux vendre.
Parce qu'on n'a pas l'impression de vous entendre beaucoup, les organisations syndicales agricoles.
Oui, c'est lié à la nature. C'est lié en même temps à la nature et à la philosophie de nos organisations. Nous sommes des gens qui défendent leurs intérêts, mais on ne casse pas. On ne va pas dans la rue pour casser des véhicules ou autre chose. Ce n'est pas notre philosophie. Ça n'a jamais été. Nous sommes quoi? Il est difficile de nous dire qu'on est des syndicalistes à un moment donné. Nous avons un rôle. Des fois, on est avocat. Des fois, on est syndicaliste. C'est-à-dire qu'on est plus dans le rôle de la négociation. Maintenant, effectivement, ça cache quelque chose qui permet, si les gens se réunissent aujourd'hui, qui vont dans la rue de Paris pour manifester, c'est plus simple à voir dans la télé que de nous. Mais ça ne veut pas dire que nous ne prenons pas en charge particulièrement. Et sur ça, je peux vous donner des exemples très simples. Entre 2000 et maintenant, quel a été le succès des organisations paysannes ouest-africaines?
Dites-nous.
Je donnerai un exemple sur la reconnaissance de l'exploitation familiale sur nos politiques agricoles, au niveau de l'ECOAP, de la CEDEAO. Nous avons mené le combat avec nos gouvernements pour demander qu'on reconnaisse cette unité et ça, la politique agricole commune l'a acté de la CEDEAO, l'ECOAP. C'est un combat qui a été gagné. Et sur ce processus de ce combat, maintenant, il se pose la deuxième question. La deuxième question, c'est comment, au-delà de la reconnaissance de cette exploitation familiale, comment agir sur elle pour qu'elle se transforme, pour qu'elle se développe. Et ça, nous avons intégré l'ensemble des instruments de mise en œuvre de cette politique agricole au niveau de la CEDEAO pour faire agir dans nos pays, que tout le monde agisse ensemble pour qu'on y arrive. C'est un deuxième exemple que je peux donner. Le troisième élément qui me semble être important, c'est la ressource de base qui est le foncier. Nous avons créé des conditions qu'il y ait un dialogue équitable entre les acteurs autour de cette ressource de base en Afrique.
Le foncier, c'est un problème dans vos pays, en Afrique de l'Ouest et dans toute l'Afrique. Comment est répartie la terre? Qui possède la terre? Quelle est votre position? Est-ce que ça doit être une propriété individuelle, une propriété communale? Est-ce que c'est l'État qui doit être propriétaire de la terre?
Ma position, officiellement, quand je suis du Sénégal, nous sommes dans le contexte de la réforme foncière au Sénégal. Le processus que nous défendons en tant qu'organisation paysanne, c'est de dire qu'il faut arriver à une mixité de domaines. Nous avons connu effectivement le domaine national particulièrement sur ça que nous avons connu particulièrement le Sénégal. Nous, ce que nous avons demandé, c'est de dire, écoutez, quand on est dans les activités agro-silvopastorales halieutiques, il y a des moments où on n'a pas besoin d'avoir un titre privé pour faire l'élevage, pour faire le pastoralisme. Pour faire le pastoralisme, on a besoin d'une zone. On a besoin d'un déplacement. Ça, on peut rester pour nous dans le domaine national pour agir sur ces questions. Il peut arriver qu'à des moments où on a mis tellement d'investissements publics où peut-être qu'il faut ici agir sur une propriété privée qui permettrait d'agir ensemble, mais d'aller à la banque peut-être si on veut s'endetter de plus. C'est ce que j'appelle une mixité de situation, de réaliser. La seule chose qu'il faut éviter pour nous, effectivement, c'est d'arriver à une immatriculation généralisée de l'ensemble de nos terres, sans tenir compte de la spécificité des activités agro-sylvopastorales et halieutiques.
Et notamment des mouvements, c'est ça que vous voulez dire ?
Et les mouvements, oui, les mouvements font partie.
Donc vous êtes a priori plutôt opposé à une généralisation de la propriété privée sur les terres, en fait, hein ?
Bon, mais la propriété privée carrément sur les terres, non. Généralisée, non. Je ne suis pas, c'est pas mon option. Parce que les activités que nous menons, il y a certaines de ces activités qui ne dictent pas, qui ne demandent pas d'avoir une propriété privée carrément.
Mais comment est-ce que dans ce cas-là, on accède au financement quand on est un paysan ? Parce que quand on est un paysan, un des problèmes des paysans, c'est justement l'accès au financement pour pouvoir financer les semences, etc. Mais s'il n'y a pas de propriété privée, s'il n'y a pas
d'actifs... Mais il n'y a personne qui a démontré que si on a titralisé, c'est-à-dire qu'on arrive à privatiser l'ensemble de nos terres, quand on est devant la banque, qu'on ait le financement.
Vous pensez que ça ne réglera pas une partie du problème ?
Ça peut. Mm-hmm. Il ne faut pas l'exclure, il ne faut pas en même temps être qui. Ça peut régler une partie du problème.
Alors,
mais on ne peut pas se dire, écoutez, aujourd'hui, l'argument de taille, pour arriver à des financements, il faut privatiser l'ensemble des terres. Ça dépend. Ça dépend de l'activité que nous voulons amener à la banque, du projet que nous voulons défendre et de son financement. Et si tout le monde va à la banque et tout le monde donne la garantie de sa terre et tout le monde ne paye pas, qu'est-ce que ça sert à la banque ? La question que j'ai dit, le fondamental, c'est de reconnaître qu'il y a des activités agro-sylvo-pastorales et halieutiques. En fonction des activités que nous menons et en fonction de la zone et de l'intérêt, de l'investissement que nous avons, nous pouvons arriver à privatiser une partie. Nous pouvons arriver à des domaines où ça ne demande pas de privatiser. Mais je ne sais pas si on veut continuer à développer le pastoralisme en Afrique de l'Ouest, je ne vois pas comment on va dire qu'on va privatiser.
Et pour vous, il faut le développer, le pastoralisme.
Il faut le développer, il existe. Et il est reconnu, de fait. Et il sert. Le pastoralisme, c'est quelque chose, c'est un domaine d'existence qui existe, c'est-à-dire qui est créé, qui est reconnu par les lois et consorts, qui existe. Il faut le développer. Maintenant, l'encadrer, oui, je suis d'accord. La parfaire, oui, je suis d'accord. L'améliorer, oui, je suis d'accord. Mais on ne peut pas penser autrement.
Alors, comment est-ce que vous voyez ces initiatives de certains gouvernements africains qui donnent des grandes superficies agricoles à des entreprises étrangères pour qu'elles y cultivent intensivement des produits qui sont exportés ?
Naturellement, paysan que je suis, dont ma première richesse, c'est la terre, je ne pourrais pas être d'accord sur cette position. Nous la combattons fermement.
Mais est-ce que c'est un phénomène, on en a beaucoup parlé à un moment donné, mais est-ce que c'est un phénomène qui est si important que ça ? Est-ce qu'il n'a pas été un peu surestimé ? Au Sénégal, il y a des exemples, par exemple, de ce type de choses ?
Il peut y avoir des exemples, je ne peux pas les citer. Mais surestimé, je ne sais pas. Mais ce que je connais, que d'une manière générale, nos gouvernements sont devenus plus attentifs à cette question. Ça, il faut le reconnaître en même temps. Les gens ont été plus désattentifs sur cette question foncière, effectivement, de dire, écoutez, même s'il y a un privé qui devrait se placer, il y a des formes de négociation, de partenariat gagnant-gagnant sur quoi il faut agir ensemble.
Qu'est-ce que vous appelez un partenariat gagnant-gagnant ? C'est-à-dire entre les paysans et
c'est ça qu'on veut développer. On en parle. Moi, je n'ai pas vécu encore l'expérience, donc il m'est difficile de se prononcer concrètement sur cette question. Mais l'idée, c'est de dire, écoutez, même si ça devrait avoir lieu, je connais qu'effectivement, d'une manière générale, en Afrique de l'Ouest, les gens ont été plus attentifs sur la question maintenant.
Est-ce que vous pensez que les gros agro-industriels sont forcément, systématiquement, l'ennemi ou n'ont pas forcément les mêmes intérêts que le paysan ?
Je ne les prends pas comme des ennemis. Parfaitement. Par contre, moi, quand tu viens, tu as ton argent.
Quand tu viens
avec ton argent, de l'argent, tes moyens financiers, tu me trouves. Je veux que tu considères que ma terre et mon expérience, c'est des moyens. Et qu'on se soit sur une table qu'on négocie.
Nadir Roussal est le grand invité de l'économie et RFI Jeune Afrique. Nous allons continuer cette conversation. Parmi les produits que l'Afrique exporte, Nadir Roussal, il y a le cacao, la Côte d'Ivoire et le Ghana sont les deux principaux producteurs et exportateurs mondiaux. Derrière viennent des pays en Afrique comme le Cameroun ou le Nigeria. Le Togo veut se placer sur ce marché de manière originale. Pour la première fois cette année, le Togo avait un stand au Salon de l'agriculture à Paris. Stanislas Daïchimier y a rencontré Komi-Eric Agboku, le président de l'association des transformateurs de café et de cacao du Togo.
Le cacao que nous avons amené, c'est des cacao biologiques que nous développons, que nous voulons mettre en exergue. Et aussi le chocolat que nous transformons chez nous. Ça veut dire que depuis la ferme jusqu'à sur le plat, nous sommes capables de produire
dans les boutiques.
Dans les boutiques, et nous produisons un cacao, un chocolat aujourd'hui qui est en train vraiment d'étonner, puisque c'est un chocolat qui ne se fond pas à une température de 45 degrés, ce que les autres n'arrivent pas encore à faire. C'est développé particulièrement pour pouvoir être vendu localement, consommé localement. Et nous avons constaté que dans nos au Togo actuellement, plus de 80% n'ont pas la chance d'avoir un réfrigérateur chez eux. Et la température minimale chez nous, si c'est trop frais, c'est 28 degrés. Donc la moyenne par jour, c'est 30, 31, 32, voire 40 dans certains lieux. Donc si nous voulons avoir ces gens-là comme des cibles, et notre politique aussi, c'est d'introduire la consommation de chocolat dans les habitudes alimentaires du Togolais et de l'Africain. Parce que aujourd'hui, on parle des grands pays de chocolat et on parle de la Suisse, de la Belgique, de la France. Mais montrez-moi un champ de cacao chez eux. Donc, je ne vois pas un champ de cacao chez eux. Donc, on ne peut pas parler de grands pays de chocolat sans parler des grands pays de producteurs. Maintenant aussi, si les gens en mangent et que c'est vraiment quelque chose de très bien pour la santé, nous pensons que c'est aussi de droit que nous, les Africains qui produisons, qui cultivons le cacao, nous puissions en manger.
Question de Frédéric Maury.
En Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest, une grande partie des productions agricoles les plus essentielles, donc comme le cacao par exemple en Côte d'Ivoire, au Togo, au Ghana, etc., ou le coton au Mali, ou l'arachide au Sénégal, sont des cultures d'exportation sur lesquelles il y a assez peu de consommation locale. Là, on entendait l'exemple de quelqu'un qui entend faire consommer, essayer en tout cas de faire consommer du chocolat localement. Est-ce que vous y croyez, ça, à la possibilité de consommer ou transformer localement des produits d'exportation qui, jusqu'à présent, en fait, partent sur les marchés internationaux, enfin depuis très longtemps d'ailleurs?
Bon, la première précision que je veux vous apporter, je suis en sahélien. Je connais peu le cacao et le café. Je suis en sénégalais et non nord du Sénégal.
Oui, mais la problématique, elle est la même. L'huile d'arachide, par exemple, elle est essentiellement exportée.
Je vais répondre à la question. La deuxième chose, effectivement, quand on parle de l'arachide, je crois qu'il y a quelque chose, je m'excuse du terme, mais il y a un faux débat. Le producteur sénégalais qu'il est, et c'est un premier, celui qui produit l'arachide, mais le premier consommateur de cette arachide chez lui. Et c'est sur ces niches que les gens n'ont pas beaucoup de travail. C'est-à-dire, ce qu'on voit, c'est l'huile d'arachide seulement. Avant d'avoir dérivé à l'huile d'arachide, il y a le tourteau d'arachide, il y a la pâte d'arachide, il y a autant de dérivés, il y a des petits grains, effectivement, des granulés d'arachide qui servent d'aliments de base à beaucoup de nos plats. C'est l'ensemble de ça qui nous font vivre. Quand j'ai parlé de la filière arachide, sa stratégie, c'est lié à ça. C'est différentes facettes d'autoconsommation que le consommateur sénégalais a besoin et qu'il réclame et qu'on lui donne, effectivement, qu'on lui offre, qui permet à cette filière d'être stratégique. La dernière question, c'est sur l'huile. Maintenant, l'huile, à un moment donné, il y avait une aberration. Il faut reconnaître ça. Si je prends le cas du Sénégal, à un moment donné, on avait quand même l'huile d'arachide, mais on vendait plutôt l'huile végétale. Ça veut dire qu'on était des producteurs d'arachide. L'huile d'arachide, on ne l'achetait pas.
C'est toujours le cas, grosso modo.
Ça commence quand même à être atténué.
Je donnerai l'exemple
des organisations paysannes que nous sommes. Nous avons signé des contrats de contractualisation avec des industriels sénégalais. On les permet effectivement de prendre la production de l'arachide, mais on est en même temps des consommateurs. Et de l'autre côté, ils nous vendaient l'huile d'arachide. C'est comme le riz à un moment donné. C'est des phénomènes qui ont existé. Maintenant, moi, le plus déterminant pour moi dans ça, sans rien dire qu'il faut... Je suis absolument d'accord qu'il faut continuer sur ces cultures. Mais la question qu'on doit se poser fondamentalement, le développement de l'Afrique, est-ce qu'il doit dépendre seulement de ces cultures? La première condition fondamentale qui me semble, il y a autant de cultures vivrières qui aujourd'hui devraient être la base de la construction de nos économies en Afrique et particulièrement de notre marché agricole. C'est sur ça qu'il faut agir pour moi. Nous avons notre igname, nous avons notre manioc, nous avons autant notre ñebé, nous avons notre souna, nous avons notre maïs. C'est autant de choses sur quoi on devrait agir particulièrement. C'est vrai, ne pas exclure ces niches, il ne faut pas les exclure, mais vouloir baser nos économies pendant 50 ans seulement sur ces filières, moi je crois qu'effectivement...
C'est ce qui s'est passé.
Oui, mais il faut renverser la tendance. Créer un marché agricole, comme on est en train de vouloir faire, le marché de la CEDEAO, arriver à une politique agricole, c'est de faire, effectivement, créer les conditions d'une richesse de toutes nos filières, globalement. Et plus particulièrement les filières vivrières. Depuis nos indépendances, c'est sur ça qu'il faut agir. Quand je m'ai parlé du consensus agroalimentaire au départ de cette émission, c'est ça que j'avais voulu dire. C'est une façon de vous dire, écoutez, qu'aujourd'hui, moi, au Sénégal, quand je suis à Dakar, quand il y a un fonctionnaire qui est à Dakar, il est à l'aise de manger le petit mille qu'on appelle le souna de chez moi. Pour simple raison, parce que l'ingénierie de la formation lui permet d'avoir ses 50 grammes granulés dans son appartement, pré-cuit, et de le faire en 5 minutes. Et c'est sur ça qu'il faut travailler pour moi.
Donc, pour industrialiser les productions
absolument
agricoles.
Absolument, vivrières.
Vous parliez tout à l'heure des accords de partenariat économique. Donc, les APE, c'est des accords qui sont signés entre l'Union européenne et des pays africains. Ça va quand même à l'inverse de ça. Les APE ouvrent les marchés aux exportations.
C'est pourquoi, depuis qu'il y a eu le combat des APE, nous, en tant qu'organisation paysanne, on a toujours refusé. Nous avons quand même fait partie des gens qui ont ralenti ce processus de négociation entre l'Afrique de l'Ouest. C'est un des succès d'ailleurs de nos organisations paysannes.
C'est-à-dire que vous ne voulez pas de cette coopération.
Ah non.
Mais elle est en train d'être signée, vous l'avez ralenti.
Oui,
certes,
oui. Mais ça, on ne gagne pas tout.
Mais pourquoi n'en voulez-vous pas?
Mais parce qu'on doit nous permettre de créer notre propre marché en Afrique de l'Ouest. Créer notre propre marché, c'est de mon village au niveau régional. Créer notre propre marché, c'est de tout ce qu'on a eu comme débat sur la valorisation de nos produits. Si on devient un marché très fort, en ce temps, on ouvre, on permet qu'on a... L'Union européenne, comment elle est arrivée à construire son pays? Elle est partie d'une préférence alimentaire de sa propre politique. Qu'on nous permette de le faire chez nous. Quand on termine, effectivement, on ouvre. Et on va être dans le combat gagnant-gagnant.
Et vous trouvez qu'on ne vous le permet pas?
Mais pour le moment, non. Pour moi, non.
Donc c'est un problème de force politique de vos dirigeants?
Oui, mais c'est, en même temps, ça a été très compliqué. Même nos dirigeants, ils ont beaucoup résisté, mais au fur et à mesure, bon, jusqu'à présent, de la CEDEAO, paraît-il, ce qu'on nous a dit, c'est que le Nigeria n'a pas encore accepté de signer, et la Gambie. Donc c'est toujours des négociations qui continuent. Hein.
Est-ce que les organisations paysannes, finalement, comme celles que vous dirigez, manquent finalement d'appui politique ou manquent finalement de personnalités qui peuvent vraiment agir sur les décisions qui sont prises?
Je ne pense pas qu'il est difficile seulement de négocier. On est un des secteurs quand même. L'État est fait pour tout le monde. Je ne pense pas. Et notre cas a été plus récurrent pour ces plus simples raisons. C'est dans ces 30 à 40 ans qu'on a commencé à s'organiser. Les premières organisations paysannes autonomes en Afrique de l'Ouest ont eu 8 jours entre les années 78, aux alentours des années 78. C'est tout un processus de construction. Aujourd'hui, quand même, il faut reconnaître que ces organisations paysannes ont une force d'agir au niveau régional qu'au niveau local.
Mais pas au niveau des gouvernements, par exemple.
Oui, même au niveau du gouvernement, oui, elles agissent. Mais elles ne gagnent pas tout. C'est normal, c'est un processus, ça se construit, ça ne se gagne pas en une année.
Mais vous pourriez être ministre, par exemple, pour faire de la politique?
C'est pas ma vocation. Ma vocation n'est pas d'être ministre. Si je devrais vouloir être ministre, je vais rentrer dans un parti politique et agir ensemble avec le politicien.
Nadir Roussal, quand on regarde les statistiques, l'endroit en Afrique où il y a le plus de gens pauvres, ce sont les campagnes, c'est parmi les populations paysannes. Dans les pays développés, quand on pense à un agriculteur africain, on a l'image de quelqu'un de pauvre, auquel des organisations non gouvernementales ou des pays étrangers apportent de l'aide. Qu'est-ce que vous pensez de cette image?
Non, à l'heure actuelle, c'est une fausse image. D'ailleurs, elle a été toujours fausse. Moi, je n'ai jamais été d'accord sur cette image de dire qu'on est pauvre. Non. Nous avons des déficits, nous avons des manques, mais nous avons agi dignement depuis que nous avons été nés dans nos métiers. Maintenant, par contre, nous avons rencontré autant de difficultés qui nous ont amené à cette image. Dans les premières années de notre indépendance, on se dit que moi je suis agriculteur, tout le monde ne le voulait pas. Parce que celui qui était reconnu comme agriculteur, c'était celui qui était le plus nul. C'est celui qui ne servait à rien. D'ailleurs, je vais vous faire rigoler. Il y a eu des années, dans les années 70, quand on dit que tu es paysan dans ta carte d'identité nationale, immédiatement, l'officier d'état civil te marque « ne sait pas signer ». Parce qu'il part a priori, quand on est paysan, c'est qu'on ne sait pas signer.
On est analphabète.
Oui. Aujourd'hui, ce n'est pas cette tendance. Aujourd'hui, quand je dis le combat identitaire, il a fortement été gagné en Afrique de l'Ouest, et plus particulièrement dans notre pays. Tout le monde aujourd'hui se réclame être paysan, responsable paysan au Sénégal. Ça veut dire que ce combat a été gagné. Ça veut dire que nous avons dépassé cette tendance. Maintenant, dans ça, il y a des négociations qu'il faut faire, effectivement, pour améliorer nos métiers. Ça, je suis d'accord. Mais non, on n'a jamais été pauvre et on ne l'est pas.
Vous voyez ce qui se passe dans le monde sur le plan politique, l'élection de Donald Trump, la Grande-Bretagne qui sort de l'Union européenne, ici la montée en puissance de l'extrême droite avec le Front national. Est-ce que ce sont des mouvements politiques, ce sont des mouvements politiques de repli sur soi? Est-ce qu'ils vous font peur? Est-ce qu'ils vous inquiètent sur les relations entre l'Afrique et le reste du monde?
Bizarrement, non. ça ne m'inquiète pas beaucoup parce que moi, j'ai trop à faire chez moi. Et on a tellement à construire. Et moi, je crois que des fois, je me... Ce n'est pas ça qui va changer le monde. Ce qui changera le monde, c'est sur nos croyances par rapport à ce que nous faisons dans nos propres pays. Fondamentalement, maintenant qu'il y ait un leader politique qui arrive, qui dit qu'on ne vous reconnaît pas, bon, on va négocier, voilà. Qu'il ne nous reconnaît pas, est-ce que c'est la fin du monde? Non, je ne pense pas. Parce que ce qui s'est passé au niveau mondial, la géopolitique mondiale, c'est les échanges. Le jour où tu dis que je ne reconnais pas l'autre, il ne te reconnaît pas. C'est ça la question fondamentale qui est derrière cette question en même temps. Donc, moi,
je ne comprends pas ce que vous voulez dire.
Ce que je veux dire, que quand tu dis que moi je suis arrivé, que je vais fermer mes frontières, je ne serai pas en relation avec l'Afrique, oui, mais je te dirai oui. Mais parce que tu ne vas pas être en relation avec moi, mais moi je ne serai pas en relation avec toi. On a été toujours dans des partenariats où d'ailleurs des fois les gens gagnent plus que nous. Donc ça ne peut pas m'inquiéter.
Frédéric Maury.
Vous estimez que c'était des partenariats perdants, en fait, c'est ça? Plutôt perdants.
À un moment donné, oui, on a été dans des partenariats perdants parce qu'on nous a pillé quand même autant de nos ressources de base, de notre créativité. Nous avons participé à construire quand même le développement de l'Europe.
Est-ce que vous avez l'impression que le rapport de force est en train de changer?
Mais naturellement, il va changer, il est en cours, oui.
On dit que l'Afrique, c'est le continent de l'avenir. Vous partagez cette croyance?
Mais ce n'est pas une croyance, c'est une réalité. C'est un continent à faire. Qu'il y a autant de ressources de base sur quoi on devrait construire, qu'il y a autant de ressources humaines qui se construisent, qui se donnent une valeur, qui a développé en moins de 20 ans des segments, des niches de formation capitale. On a autant de cadres aujourd'hui que toutes les autres régions du monde. Donc c'est un continent d'avenir particulièrement. C'est une force montante d'ailleurs.
Merci Nadir Roussal. Écho d'ici, Écho d'ailleurs est terminé. Vous étiez le grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique. Vous pouvez retrouver la vidéo de cette émission sur les sites internet de RFI et de Jeune Afrique et les meilleurs extraits dans les colonnes du magazine Jeune Afrique. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques. Au revoir.
Écho d'ici, Écho d'ailleurs sur RFI.